Bonjour Fabrice Drouel, aujourd'hui en tout cas on change un peu de titre, ce sera pas 2000 ans d'histoire mais 200 millions d'années d'histoire puisque nous allons parler des dinosaures. Une bête s'approchait de moi, son cri féroce m'indiquait qu'elle appartenait à l'espèce des dinosaures, les animaux les plus terribles qui aient jamais erré sur cette terre. Conan Doyle. D'histoire. Il n'aura fallu que quelques secondes pour qu'une gigantesque météorite provoque la disparition d'une espèce qui aura régné pendant 160 millions d'années sur la Terre. C'était bien avant l'apparition des premiers hommes et la découverte des premiers fossiles de ces animaux auxquels un paléontologue britannique, Richard Owen, a donné leur nom. Les dinosaures, qui depuis nous fascinent plus que n'importe quelle espèce animale vivante. Peut-être à cause de leur poids et de leur taille, des 27 mètres et des 30 tonnes du Diplodocus, peut-être aussi de la peur qu'inspire encore le plus féroce d'entre eux, le tyrannosaure, ou peut-être enfin, tout simplement, à cause de l'âge de ces reptiles, dont l'histoire a commencé quelque part sur un continent qui n'existe plus, il y a 220 millions d'années.
Imaginez que vous remontez le temps. Très loin en arrière. Vous voyagez vers un temps où la Terre n'était pas encore celle que vos cartes décrivent. Bien longtemps avant qu'elle porte le premier homme. Vous avez franchi des millions d'années. Vous êtes à l'ère secondaire, à la période appelée Trias. Un unique continent s'étend de pôle à pôle, la Pangée. De nombreuses variétés de reptiles anciens ont traversé le Trias. Mais dans ces étendues sauvages, une famille de reptiles s'apprête à façonner le cours de la vie sur Terre pour les 160 millions d'années à venir. Les premiers dinosaures. C'est ici que notre histoire commence.
C'était André Dussolier dans un formidable documentaire de la BBC sur la Terre des dinosaures. Éric Buffetaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue, directeur de recherche au CNRS et auteur d'un petit livre sur les dinosaures dans lequel vous démontez pas mal d'idées reçues, mais sur l'âge des dinosaures, vous êtes tout à fait d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Ils sont nés il y a 220 millions d'années, ce qui paraît insensé d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Évidemment, c'est à quelques millions d'années près, parce que les datations ne sont pas d'une précision absolue. Alors, ça paraît très lointain, mais en même temps, c'est à remettre dans la perspective de l'histoire générale de la planète. La Terre a environ 4 milliards 600 millions d'années. Donc, en fait, les dinosaures sont beaucoup plus proches de nous qu'ils ne sont du début de la planète Terre. Mmh.
Alors, c'est aussi, ils sont pas les premiers êtres vivants, hein, 3 milliards 800 millions d'années, je crois, pour les êtres vivants. Alors, eux, c'est 220 millions d'années à peu près, hein, c'est-à-dire, c'est ça qui est spectaculaire, 100 000 fois le temps qui nous sépare du début de notre ère. Et puis alors, ils ont vécu très longtemps, 160 millions d'années, pendant lesquelles, dit-on, ils ont dominé la planète. Est-ce
oui,
que c'est vrai,
le
ça
terme dominé, évidemment, c'est un peu anthropomorphique. Et parmi les animaux, c'est un terme à prendre avec un peu de précaution. Quand on dit qu'ils ont dominé les faunes de cette époque, c'est parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient grands, en tout cas pour certains d'entre eux, on les trouvait dans le monde entier. Et c'est vrai qu'un voyageur qui voyagerait dans le temps et qui arriverait au Mésozoïque, à l'époque des dinosaures, ce qu'il verrait en premier, probablement, ce serait des dinosaures. Parce qu'ils étaient un peu partout. Et donc leur place dans les environnements était indiscutablement très importante.
Parce qu'on ne parle jamais des autres, hein, on l'oublie, on a l'impression qu'à cette époque il n'y avait que des dinosaures, on ne parle jamais des autres animaux qui vivaient. Il y avait déjà des mammifères.
Oui, tout à fait. C'est à tort qu'on oublie les autres. Il y avait déjà des mammifères qui étaient, par rapport aux dinosaures, d'un ensemble petit et aurait pu paraître insignifiant, mais il y avait aussi, au moins à partir d'un certain point dans l'histoire des dinosaures, il y avait des oiseaux. Il y avait des animaux qui nous paraissent relativement communs aujourd'hui, comme des tortues ou des crocodiles. Et puis il y avait des choses qui n'existent plus du tout, comme les reptiles volants ou les grands reptiles marins qui étaient contemporains des dinosaures.
Et puis il y avait des animaux qui n'existaient pas à l'époque, parce qu'on a longtemps cru que l'homme était contemporain des dinosaures, qu'il en avait rencontré, pas du tout, là encore.
Alors ça, c'est une idée qu'on retrouve parfois, enfin maintenant surtout dans de la fiction, l'idée suivant laquelle l'homme préhistorique aurait pu rencontrer des dinosaures. Et en fait, les premiers hominidés, disons, sont séparés des derniers dinosaures par une bonne soixantaine de millions d'années, donc les chances de rencontre sont minces.
Alors ça n'empêche pas les dinosaures de nous fasciner plus que les espèces animales d'aujourd'hui, même si nous ne les avons jamais rencontrées, sauf dans un film célèbre.
C'est un dinosaure. Cette chose a un coût de 7, 8 mètres.
Le brachiosaure, 9.
Ils sont rapides.
Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h.
Vous avez un T-Rex ?
Oui.
Vous dites que vous avez un T-Rex ?
Oh.
Mets ta tête contre les genoux.
Non. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park.
Évidemment, c'est l'extrait du film de Spielberg. On peut dire vraiment qu'il a relancé l'intérêt pour les dinosaures, Eric Buffetaud, hein.
Oui, je crois qu'il faut employer le terme relancer, parce qu'il faudrait pas croire que l'intérêt pour les dinosaures a commencé avec le film de Spielberg. Moi, quand j'étais enfant, dans les années 50, il y avait déjà beaucoup de livres pour enfants sur les dinosaures, que je lisais avec grand intérêt. Et en fait, cet intérêt, il remonte aux premières découvertes de dinosaures, vers le milieu du 19e siècle. Déjà, ils ont passionné les foules.
Oui, alors justement, comment l'expliquer? Parce que des animaux, il y en a des quantités dans l'histoire de la Terre, et même depuis la mort des dinosaures. Comment expliquer cet intérêt? Est-ce que c'est d'abord la taille, évidemment, le côté très monstrueux de la plupart de ces animaux?
Je crois qu'en effet, le côté monstrueux a frappé l'imagination très rapidement. À la fois par la taille très grande dans certains cas, il y a des dinosaures qui faisaient plusieurs dizaines de mètres de longueur, qui devaient peser plusieurs dizaines de tonnes.
Je crois que le record, c'est le Diplodocus.
Le Diplodocus est un des plus longs, c'est pas forcément le plus lourd. Il y a des animaux comme le Brachiosaurus, dont on a estimé le poids jusqu'à 70 tonnes, ce qui fait quand même pas mal. Donc, la grosseur, le gigantisme même de certains dinosaures, c'est certain que ça a eu une influence sur l'esprit du public, et la bizarrerie de l'apparence des dinosaures aussi. C'est un peu, ils ont repris un peu la place des dragons dans l'imagination populaire, avec la différence, c'est que on sait que ce ne sont pas des créatures imaginaires, ce sont des animaux qui ont vraiment existé. Ce qui les rend peut-être encore plus étonnant à certains égards.
Quand vous citez le poids des 80 tonnes, c'est ça, du brachiosaure, c'est-à-dire 15 fois à peu près la taille d'un éléphant, qui à côté devait ressembler à un caniche nain. Il y a de quoi impressionner.
Il y a de quoi impressionner, et ça a d'ailleurs posé pas mal de problèmes aux paléontologues, pour comprendre comment des animaux aussi énormes pouvaient fonctionner, comment ils pouvaient se déplacer. Ça pose des problèmes de biomécanique qui sont pas faciles et sur lesquels on discute encore.
Alors, ils sont pas tous gigantesques, Eric Buffetaud, parce que moi j'étais surpris en vous lisant d'apprendre qu'il y avait des dinosaures de 5 cm de long.
Oui, on a découvert d'ailleurs assez rapidement qu'il y avait des dinosaures qui n'étaient pas si gros que ça, même si c'est les dinosaures gigantesques qui ont attiré l'attention du public et aussi des paléontologues. Mais on sait qu'il existait des dinosaures qui n'étaient pas beaucoup plus gros qu'un oiseau. Et récemment, en Chine, on a trouvé des restes de vraiment très petits dinosaures qui étaient de la taille, disons, d'un merle, voire encore plus petit.
Le Microraptor.
Le Microraptor, qui est actuellement le plus petit, qui est donc le tronc fait à peu près 5 cm de long. Bon, il y avait une assez seconde queue, ce qui fait que la taille totale était un peu plus grande, mais ça reste un très très petit dinosaure.
Alors, il y a aussi autre chose qui peut fasciner, c'est la peur, tout simplement, et on aime bien se faire peur, la peur qui nous inspire, parce que bon, la férocité, un des plus célèbres, c'est le plus féroce, c'était un carnivore, ils ne le sont pas tous, hein. Bien entendu, le diplodocus dont on parlait, qui est énorme, n'est pas du tout carnivore, mais alors il y a ce tyrannosaure. Le monde des dinosaures, hein, c'est un peu un monde de brutes, en tout cas, c'est la réputation qu'il a.
C'est une réputation qui a été d'ailleurs confortée par d'innombrables reconstitutions. On voit les dinosaures se battre entre eux avec la plus grande énergie, ce qui est probablement pas faux. Hein. Il est clair qu'il y avait des dinosaures carnivores, des dinosaures herbivores, et que les uns étaient certainement les proies des autres. Maintenant, il faut pas s'imaginer que c'était forcément des animaux beaucoup plus agressifs que ne sont les animaux d'aujourd'hui, même si on a tendance à vouloir se les imaginer systématiquement comme des brutes sanguinaires.
En tout cas, des animaux qui n'ont plus aucun ou presque plus aucun secret pour nous. France Inter, Alain Le Gouguec, le 21 octobre 1993.
France Inter. Écoutez ça, au Japon, le directeur de l'Institut d'études acoustiques de Tokyo, Matsumi Suzuki, a réussi à reconstituer par ordinateur les cris des dinosaures le soir au fond des bois. À partir de la capacité thoracique des gros lézards d'antan et d'un examen minutieux des fossiles qui peuplent nos musées, l'honorable Monsieur Suzuki a réussi, le plus scientifiquement du monde, à fixer l'empreinte vocale des animaux disparus il y a des millions d'années. La complainte de l'élasmosaure fait office de clé de sol. Séquence document.
Extraordinaire quand même ce que la science est capable de faire avec des animaux qui ont disparu depuis 65 millions d'années. Est-ce que c'est sérieux, cette expérience? Vous qui êtes paléontologue,
je dirais que c'est pas illégitime d'essayer de reconstituer ce genre de choses si on a des éléments qui permettent une tentative. Il faut pas non plus y accorder une croyance excessive. Je dirais que c'est amusant, c'est pas ce qui préoccupe essentiellement les paléontologues malgré tout.
Ce qui préoccupe celui qui les écoute, c'est est-ce que ce bruit qu'on vient d'entendre, eh ben, on pouvait l'entendre au Trias, au Jurassique, au Crétacé.
C'est possible. Et maintenant, il faut dire une chose, c'est que l'élasmosaure qui a été cité n'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin. Mais ça change pas grand chose au problème. Ce qu'on entend ne paraît pas totalement absurde. L'ennui, c'est que je ne vois aucun moyen vraiment de vérifier.
En tout cas, ça prouve l'intérêt de la science, de la paléontologie, pour les dinosaures. Quand est-ce qu'on a découvert les premiers dinosaures, Eric Gusteau?
Alors, les toutes premières découvertes sont un peu difficiles à placer dans le temps parce qu'elles se sont faites probablement dans un cadre non scientifique et n'ont pas vraiment laissé de traces. On sait par exemple que certaines tribus d'Indiens d'Amérique connaissaient les os de dinosaures parce qu'ils les trouvaient à la surface du sol et les interprétaient en termes de monstres mythologiques. Et les premières découvertes plus ou moins scientifiques remontent au XVIIe siècle en Angleterre, mais c'était avant que la paléontologie existe vraiment en tant que science, et on a vraiment compris à peu près ce que c'était que les dinosaures à partir du début du XIXe.
Alors avec notamment la découverte, je crois que c'est en Angleterre, d'une dent, et d'une dent du premier dinosaure auquel on donne un nom, avant même que le mot dinosaure apparaisse, d'ailleurs c'est l'iguanodon, une dent d'ailleurs qui était arrivée entre les mains du grand paléontologue qui était Cuvier.
L'iguanodon en fait est le deuxième dinosaure à avoir reçu un nom scientifique, le premier c'est le mégalosaure, mais l'iguanodon a été un des tout premiers à être étudié, et effectivement son découvreur qui s'appelait Gideon Manto, qui était un médecin en Angleterre, a fait parvenir une dent à Cuvier, qui était la grande autorité en paléontologie à cette époque, parce qu'il avait bien du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Et Cuvier d'abord s'est trompé, il a pensé que c'était une dent de rhinocéros, et puis ensuite, en y revenant, et il a examiné un peu plus la suggestion de Mantel, qui pensait que c'était un grand reptile herbivore, et il a conclu que c'était sans doute le cas. Et effectivement, c'était bien le cas.
Alors, on n'a pas encore donné de nom à l'espèce dans son ensemble, chaque animal porte un nom, et alors c'est un anglais, c'est un paléontologue anglais, qui est Richard Owen, qui en 1841-1842, je crois, donne son nom définitif à ce groupe d'animaux, les dinosaures. Ça vient d'où? Comment ce nom a-t-il été forgé?
Owen a forgé ce nom comme on faisait à l'époque et comme on fait toujours d'ailleurs pour les noms scientifiques d'animaux, à partir de racines grecques en l'occurrence, des mots dinos et sauros. Et on dit souvent que ça veut dire lézard terrible. Sauros voulant dire lézard et dinos voulant dire terrible. Mais en fait, quand on relit Owen, pour lui, dinos veut dire terriblement grand. Donc il voyait la grande taille comme une des caractéristiques principales de ces dinosaures.
Oui, parce que terrible, ça aurait été déjà une mauvaise réputation donnée aux dinosaures.
Tout à fait. En fait, c'était la taille qui avait frappé.
Alors, des dinosaures, le dinosaure, enfin les dinosaures, il y en a des quantités. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui permet de les distinguer des autres animaux? Quel est, selon vous, on dit ce sont des reptiles, ils sont à sang-froid. Reptiles, c'est le nom même que donne Cuvier. Enfin, quand il dit lézard, ça veut dire reptile. Mais qu'est-ce qui les distingue des autres qui étaient leurs contemporains?
D'abord, je crois que c'est important, justement, d'employer le mot au pluriel. C'est vraiment les dinosaures, ça recouvre une très grande diversité d'animaux différents. Et ce qui les distingue des autres reptiles, c'est surtout leur posture. Un reptile, par définition, par étymologie, c'est un animal qui rampe sur le sol, avec le ventre traînant sur le sol. Les dinosaures, eux, avaient des membres qui étaient placés d'une façon différente, qui étaient beaucoup plus redressés, beaucoup plus verticaux, ce qui fait qu'ils se déplaçaient plus comme un mammifère ou un oiseau d'aujourd'hui. Et donc, ils avaient une locomotion différente de celle des reptiles normaux, et ce qui leur a d'ailleurs donné un avantage probablement dans la lutte pour l'existence, pour parler en termes darwiniens, et ce qui explique en partie leur succès évolutif.
Alors, un reptile terrestre. Là-dessus, vous insistez beaucoup, Éric Buffetaud, parce que vous niez l'existence de ce qu'on appelle les dinosaures marins. Or, il y en a beaucoup dans beaucoup de représentations, dans beaucoup de livres. On nous parle, par exemple, justement, de l'élasmosaure, oui, qui était dans les mers. Pour vous, il n'y a pas de dinosaures dans les mers?
Non, c'est une question de définition et d'anatomie aussi. Les dinosaures, ça correspond à un schéma anatomique bien précis. Et ces reptiles marins qui ont bien sûr existé, les ichthyosaures, les plésiosaures, les mosasaures, qui ont été les contemporains des dinosaures et qui vivaient dans les océans de cette époque. Si on examine leur squelette, on voit que ce ne sont pas des dinosaures suivant la définition exacte du mot dinosaure. Ce sont d'autres groupes d'animaux qui se sont adaptés à la vie aquatique, mais pour autant que nous sachions, aucun dinosaure ne s'est adapté de cette façon à la vie dans les mers. Donc ces animaux qui vivaient dans les mers ne sont pas des dinosaures au sens zoologique du terme.
Donc le monstre du Loch Ness n'était pas un dinosaure si jamais il existait. Enfin, quand je dis les mers, c'est aussi les lacs ou les marécages. Là, vous aussi, vous dites, enfin, ils pouvaient y mettre les pieds quand même.
Oui, tout à fait. De même qu'un éléphant n'hésite pas à aller se tremper dans un lac ou dans un marais. Certainement, les dinosaures faisaient de même. Mais il n'y avait pas de dinosaures qui soient adaptés à la natation, si vous voulez, qu'ils soient transformés pour vivre dans l'eau ou dans la mer.
Donc, reptiles terrestres. Alors, quid des dinosaures qui volent? Parce que il y en a aussi, on les représente beaucoup.
Alors, oui. Ça aussi, c'est un abus de langage. Il y avait des grands reptiles volants, contemporains aussi des dinosaures, les ptérodactyles, les ptérosaures. Bon, il y a le pteranodon qui est connu parce que c'est un des plus grands. Et on a souvent tendance à dire que ce sont des dinosaures volants. Mais là encore, zoologiquement parlant, c'est inexact. Ce sont des animaux qui appartiennent à un autre groupe de reptiles qui est bien distinct des dinosaures. Alors maintenant, est-ce qu'il faut vraiment exclure la possibilité de dinosaures volants? Probablement pas, parce que ces dernières années, on a découvert en Chine des squelettes de dinosaures, de petits dinosaures, comme on disait tout à l'heure.
Le microraptor.
Comme le microraptor, notamment. Qui avait des plumes. Et on s'aperçoit que de nombreux dinosaures, de petits dinosaures carnivores, en fait, n'avaient pas une peau écailleuse, comme on s'imaginait, mais étaient couverts de plumes. Et certains d'entre eux, d'après la position et la taille de ses plumes, étaient des animaux qui pouvaient planer probablement de branche en branche.
Alors, où est-ce qu'ils vivaient, Éric Buffetaud? Parce que, on l'a entendu, à la naissance des dinosaures, au Trias, il y a un continent, point barre, la Pangée, mais tous ces dinosaures, ils ont évolué, les espèces n'ont pas vécu tout en même temps. Il y a des endroits bien particuliers où on les retrouve, mais uniquement dans cet endroit. Par exemple, le célèbre, l'épouvantable, l'abominable tyrannosaure, c'est uniquement en Amérique du Nord, mais toujours, dit-on, aussi dans un climat chaud tropical.
Mais en fait, les dinosaures, on a retrouvé leur reste sur tous les continents. Le dernier continent où on les a trouvés, c'est l'Antarctique. Ils ont vécu vraiment dans le monde entier, dans un monde qui a beaucoup changé.
L'Antarctique qui n'avait pas de pôle polaire à l'époque.
L'Antarctique n'était pas couvert de glace. Et donc ces dinosaures, ils ont suivi, si on peut dire, la dérive des continents, ce qui fait qu'à mesure que les continents se séparaient les uns des autres, les populations de dinosaures qui vivaient sur les continents se trouvaient séparées elles-mêmes et donc évoluaient dans des directions différentes.
Alors ce qui est fascinant aussi, bien sûr, c'est peut-être qu'explique le mystère qui nous intéresse chez les dinosaures, c'est qu'ils ont tous disparu d'un seul coup. On sait d'ailleurs longtemps demander pourquoi, et même on se demande s'il n'en existe pas encore aujourd'hui en Afrique, où certains croient dur comme fer en l'existence du dernier représentant des dinosaures, Jean-Jacques Barlois, au micro des Chemins de la Connaissance de France Culture en 1991.
Il s'agit du fameux Mokele Mbembe. L'affaire se passe dans le nord du Congo. où les habitants décrivent un animal long de 7 à 8 mètres, assez massif, avec un long cou, une petite tête, et qui mène une existence amphibie.
Emmanuel, qui était un grand chasseur d'éléphants, il nous a parlé d'un étang où l'animal existait il y a 6 mois. On est arrivé à l'endroit, et puis nous avons vu les traces, un peu plus grandes qu'un éléphant. Il y avait au moins 4 pieds. De chaque côté de ces traces, il y avait au moins 4 mètres de largeur où l'herbe était aplanie. Peut-être que c'était la queue. Eh bien, nous avons pris la pirogue avec une sonore. On a cherché partout dans les Gualozères, mais on n'a rien trouvé.
Et c'était Pasteur Thomas, guide d'une mission scientifique sur les traces du Mokele Mbembe. Pasteur Thomas qui n'a rien trouvé, mais qui croit dur comme fer en ce Mokele Mbembe apparemment. Vous n'y croyez pas du tout.
Je ne crois pas que, en tout cas, que Mokele Mbembe soit un dinosaure, parce que la description qu'on en donne, une espèce de gros animal semi-aquatique.
Qu'on n'a jamais vu, hein.
Que certains disent avoir vu, mais qu'on n'a jamais photographié, par exemple. Ça correspond à l'idée qu'on se faisait des dinosaures il y a 50 ans, mais plus du tout à celle qu'on s'en fait aujourd'hui. Donc, si par hasard il existe, ce n'est très probablement pas un dinosaure.
Et puis, alors, ils ont disparu, ça, on est d'accord, encore que, bon, nous verrons. Mais ils ont disparu il y a 65 millions d'années. Et puis, leur disparition, quand même, posait un problème. Avant qu'on évoque toutes les hypothèses, il y a déjà quelque chose qui gêne, et qui a gêné l'Église dans cette idée qu'une espèce entière puisse disparaître d'un seul coup.
Mais en fait, ça gêner l'Église et même les philosophes, pas forcément très dévots du XVIIIe siècle, le fait que des espèces, pas forcément les dinosaures, mais n'importe quelle espèce disparue, aussi bien les mammouths, si vous voulez, aient pu disparaître. Parce qu'on imagine mal que dans le plan de la création divine, il puisse y avoir des animaux qui soient suffisamment ratés, peut-on dire, pour qu'ils aient disparu. Donc ça a été un obstacle philosophique et théologique à surmonter pour que la paléontologie puisse se développer en tant que science.
Alors il y a eu ensuite des quantités d'hypothèses. Je crois que Cuvier déjà avait envisagé cette solution de la disparition totale des dinosaures. Mais alors, on a émis des quantités d'hypothèses qu'on va passer en revue. D'abord, on a cru qu'ils avaient disparu à cause des mammifères qui vivaient en même temps qu'eux.
Ça a été dit, on a prétendu par exemple que les petits mammifères, qui étaient de la taille, les plus gros étaient de la taille d'un blaireau, hein, qui vivaient au temps des dinosaures, avaient pu dévorer les œufs des dinosaures jusqu'à ce que les dinosaures finissent par s'éteindre. C'est assez invraisemblable parce qu'en fait, les dinosaures et les mammifères primitifs ont vécu côte à côte pendant 160 millions d'années au bas mot, sans que l'un provoque la disparition des autres. Donc c'est difficile de croire que ça s'est produit comme ça.
Alors, autre hypothèse, celle d'une catastrophe. Il y a eu par exemple l'idée qu'un refroidissement climatique brutal aurait provoqué leur disparition.
On a beaucoup pensé, en effet, que les dinosaures auraient pu être victimes d'un changement du climat, d'un refroidissement du climat. Et ça, c'est parce qu'on a très longtemps cru que les dinosaures étaient simplement des gros reptiles, c'est-à-dire des animaux à sang froid qui ne pouvaient pas supporter des climats trop froids. Et ça, on s'aperçoit de plus en plus qu'en fait, les dinosaures, à cet égard, n'étaient pas comme les reptiles d'aujourd'hui. Et de nombreux arguments, y compris des arguments tirés de la géochimie des dents de dinosaures, montrent que, très probablement, les dinosaures étaient des animaux à sang chaud. C'est-à-dire qu'ils pouvaient maintenir leur température corporelle au-dessus de celle du milieu extérieur, si nécessaire, et donc ils pouvaient supporter des températures relativement basses.
Alors, on a pensé aussi qu'ils étaient inadaptés au milieu. Ils n'auraient peut-être pas vécu, dites-vous,
tout à fait.
Aussi longtemps, 160 millions d'années. Alors, évidemment, la bonne hypothèse, selon vous, mais ce n'était une hypothèse que jusqu'en 1980. Là, maintenant, vous dites vous-même être convaincu, c'est cette fameuse collision, il y a 65 millions d'années, une météorite qui arrive sur la Terre. On a même trouvé l'endroit, je crois que c'est sur la péninsule du Yucatan.
Oui, tout à fait, c'est sur la péninsule du Yucatan. Et ça, il faut bien voir que ça n'est pas une invention, une hypothèse, un jeu de l'esprit. C'est un fait géologique maintenant qui est avéré. C'est une très grosse météorite qui devait faire une bonne dizaine de kilomètres de diamètre a heurté la Terre il y a 65 millions d'années. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que cet événement a eu des retombées à l'échelle du monde entier, puisqu'on retrouve précisément des retombées, des choses, des produits qui viennent de cet impact sur toute la surface du globe. Et ça doit être un événement qui a eu des conséquences écologiques immenses sur l'ensemble de la planète. Et c'est le moment où disparaissent non seulement les dinosaures, mais aussi beaucoup d'autres espèces. Et il est très difficile de penser que c'est un hasard, une pure coïncidence.
Oui, il y aurait eu donc une espèce de nuage de poussière pendant des années qui fait disparaître la végétation, donc l'alimentation de certains animaux et une insuffisance alimentaire pour ces dinosaures qui, s'ils n'étaient pas morts sur le coup, seraient morts en quelques mois ou quelques quelques années. Alors, ils ont disparu. Une hypothèse quand même, parce que on a entendu tout à l'heure Jurassic Park. Est-ce qu'on peut les reconstituer à partir de l'ADN d'un animal, enfin d'un fossile?
On ne peut pas à l'heure actuelle, on ne pourra peut-être jamais, quoi. C'est difficile de dire jamais pour ce genre de questions. Le grand problème, c'est de trouver de l'ADN qui soit en bon état, parce que l'ADN, c'est une molécule qui est très fragile, et on n'a jamais retrouvé d'ADN en bon état qui soit aussi ancien que les dinosaures.
Cela dit, c'est peut-être pas nécessaire, parce que j'ai appris en vous lisant que les dinosaures, ils avaient quand même, il y en a quelques-uns qui ont survécu, en tout cas ils ont des descendants, et c'est tout simplement les oiseaux.
Oui, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Il est de plus en plus clair que les oiseaux descendent de certains de ces petits dinosaures qui portaient des plumes, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on trouve de plus en plus fréquemment, notamment en Chine, et qui montre maintenant la transition entre un dinosaure arboricole, un dinosaure planeur éventuellement, et puis un oiseau primitif. Donc il est de plus en plus vraisemblable que les dinosaures ne sont pas éteints sans descendance, et qu'ils ont même des descendants très nombreux et très communs, qui sont les oiseaux.
Et puis des oiseaux très gentils, c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique l'idée que l'on s'est fait des dinosaures, eh bien elle a beaucoup changé dans le temps, les sentiments qui nous inspiraient ont évalué. Écoutez France Inter, Philippe Habitboul, le 14 janvier 2000.
N'arrêtez pas le crépuscule des dinosaures, une exposition présentée actuellement au Palais de la Découverte jusqu'au 14 mai. On peut y voir des dinosaures plus vrais que nature et en plus, ils bougent. Les enfants sont ravis, comme en témoignent ces réactions recueillies sur place.
Yves Coppens, on vous retrouve à regarder les dinosaures. Qu'est-ce que vous faites ici ?
Je viens m'instruire et regarder ces bêtes qui m'effraient. Allez voir le tyrannosaure, il est effrayant. Je pense que pour tous les publics qui viennent ici, en particulier les publics de petits, c'est impressionnant de reconstitution.
Waouh, on y croirait vraiment. Surtout quand ils détournent la tête sur vous, là on a vraiment peur. S'ils attaquent, on est mal.
Les T-Rex, ils sont courageux.
Puis là, ils pourraient tous nous manger si ce serait un vrai.
Du dinosaure.
C'est un grand lézard,
le tyrannosaure est courageux. C'est extraordinaire cette évolution. Il y a un siècle, on disait du mal des dinosaures, Jules Verne, Conan Doyle, on a entendu, on disait du mal. Maintenant, voilà, qui sont presque sympathiques.
Oui, il y a eu un peu un retournement de tendance quant à la façon de voir les dinosaures. On les voyait vraiment comme des brutes stupides et malfaisantes. Et puis maintenant, ça a un peu changé. Alors, les enfants aiment bien se faire peur quand même avec le tyrannosaure, mais il y a des dinosaures qui paraissent presque mignons. On voit des mères dinosaures qui veillent sur leur nid, sur leurs petits, des choses comme ça. Ça en devient presque mièvre et extrême. Mais les dinosaures sont devenus quelque chose de beaucoup plus sympathique. Il y a des peluches de dinosaures, par exemple.
Il y a même des gens qui souhaitent les réhabiliter. Moi, j'ai reçu un mail ce matin de quelqu'un qui savait qu'on allait faire quelque chose sur les dinosaures et qui dit « La réintroduction des dinosaures est une opération absolument indispensable pour l'avenir de notre planète. Le dinosaure est un animal fort sympathique et qui gagne à être connu. »
Oui, ils s'amusent beaucoup avec ça, ce groupe dino. Et c'est vrai que le dinosaure, maintenant, a pris une connotation assez positive. C'est un animal dont on a tendance à regretter la disparition, quelque part.
Et est-ce qu'il revient ? Est-ce qu'on sait tout d'abord sur les dinosaures, pardon, Éric Buffetot ?
J'espère que non, sinon les paléontologues sont condamnés au chômage. Non, on est loin de tout savoir, on connaît plusieurs centaines d'espèces de dinosaures, mais quand on considère qu'ils ont vécu pendant si longtemps, pendant tellement de dizaines de millions d'années, on se rend compte que ce qu'on connaît, c'est une fraction de ce qui a vraiment existé. Et tous les ans, on découvre plusieurs dizaines de nouveaux dinosaures. Donc rien que l'inventaire des dinosaures est loin d'être fait.
Mais vous-même, vous y allez régulièrement, je crois, en Thaïlande, vous m'avez dit.
Oui, régulièrement.
Qu'est-ce qui reste à découvrir,
Géographiquement, il y a des...
Quelle est la découverte sur les dinosaures du 21e siècle?
Ah, je ne sais pas. Déjà, géographiquement, il y a des endroits qui n'ont pas encore été prospectés. Je parlais tout à l'heure de l'Antarctique, qui est lointain et il n'est pas très accessible. Mais on sait qu'il y a des dinosaures, mais on est loin de bien les connaître. Même beaucoup plus près de nous, on trouve des dinosaures tout à fait inattendus dans des pays d'Europe et des régions de France.
Peut-être en dessous de ce studio. Merci Éric Buffetot. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, Les dinosaures aux éditions Le Cavalier Bleu, dans la collection Idées reçues. Vous êtes également l'auteur de Cuvier, le découvreur de monde disparu, publié aux éditions Pour la Science. À lire également Dinosaures, qui paraîtra début octobre aux éditions Gallimard Jeunesse, et Le Monde perdu des dinosaures, de Jean-Guy Michard, aux éditions Découverte Gallimard.
Vous avez pu entendre des extraits de l'excellent documentaire de la BBC sur la Terre des dinosaures en DVD chez France 3 Vidéo. On y voit d'ailleurs des dinosaures marins. Bon. Et puis aussi le film, bien sûr, de Spielberg, Jurassic Park, disponible en DVD aux éditions Zone 2. Ainsi que des extraits de deux émissions de France Culture, Les Chemins de la Connaissance de Laurent Forge et L'Échappée Belle de Robert Arnault. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sophie Morino et Patrick Henry. Merci aussi à Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard et à notre réalisateur, Anne Kobilac.